إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. On continue donc aujourd'hui l'étude de cette épître intitulée « Ce que tout musulman et toute musulmane doivent obligatoirement savoir ». Lors du dernier cours, nous avions vu les différentes catégories de tawhid, les catégories de l'unicité. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir le chapitre suivant dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a exposé ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le polythéisme. Il a dit, rahimahullah ta'ala, « Diddu tawhid al-shirk » l'opposé du tawhid, l'opposé de l'unicité, est le shirk, le polythéisme. Donc le shirk, mes frères, c'est la chose la plus grave s'opposant au tawhid, et ce de manière absolue. En effet, le shirk, qui est le polythéisme, il ne peut en aucun cas se réunir avec le tawhid, qui est l'unicité. Et ce car le shirk, il annule le tawhid, il le corrompt, il le rend vain. Donc celui qui fait du shirk, celui qui tombe dans le polythéisme, suite à cela, il n'est plus musulman. Et ce, jusqu'à ce qu'il délaisse le polythéisme, qu'il s'en désavoue, et qu'il se désavoue de ses adeptes. Et ceci ne peut avoir lieu, c'est-à-dire que l'homme ne peut délaisser le polythéisme et s'en désavouer, si ce n'est en apprenant ce qu'est le polythéisme, en apprenant ce qu'est le shirk. Car celui qui ne connaît pas ce qu'est le shirk, il ne connaît pas le polythéisme, il ne connaît pas les catégories de polythéisme, alors il risque fortement de tomber dans le polythéisme, car il ne sait pas ce que c'est. Il est donc indispensable pour nous d'apprendre à connaître ce qu'est le polythéisme et quelles sont ses catégories. Et en réalité, ceci fait partie de la perfection de la connaissance du tawhid. C'est-à-dire qu'en connaissant ce qui s'oppose au tawhid parmi les formes de polythéisme, tu parfaitras ainsi ta connaissance du tawhid, c'est-à-dire l'unicité. Donc le shirk, al-akbar, le polythéisme majeur, il s'oppose de façon totale au tawhid, c'est-à-dire qu'il annule le tawhid. Tandis que le shirk al-asghar, le polythéisme mineur, il s'oppose à la perfection obligatoire du tawhid. Quoi qu'il en soit, comme on l'a mentionné dans d'autres cours précédemment, il est obligatoire aux musulmans de prendre garde à toute forme de polythéisme et d'avoir peur pour lui-même de tomber dans le polythéisme. En effet, méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit au sujet de son Khalil, Ibrahim, le père des prophètes, alayhimu salatu wa salam, lorsqu'il a dit « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam »« Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. » Allahu Akbar. C'est Ibrahim alayhi salam qui dit cette parole. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de l'adoration des statues. Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala, il a dit à ce sujet « Et qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim alayhi salam ?» En effet, c'est Ibrahim alayhi salam qui est l'imam des muwahhidin, celui de qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui tout seul une ummah, un guide pour les monothéistes. Ibrahim alayhi salam, celui qui a cassé les statues de sa main, c'est lui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de l'adoration des statues. Il a peur de tomber dans le polythéisme. Alors que dire de toi et de moi, mon frère? Penses-tu que nous pouvons nous sentir à l'abri du polythéisme? Il n'y a pas de doute que nous ne sommes pas à l'abri. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et plus la personne augmentera en termes de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de connaissance de son unicité, en termes de connaissance du shirk et de ses catégories, plus la personne aura peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et peur de tomber de ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si la personne n'a pas peur de cela et qu'elle se sent à l'abri, ceci provient alors d'un manque de science et de connaissance à ce sujet. Et méditez également sur la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait fréquemment dans ses invocations, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir son cœur sur la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informés de l'invocation de ceux qui sont enracinés dans la science. Qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donc mes frères, on voit qu'il est indispensable pour le croyant et qu'il fait même partie des caractéristiques des croyants qu'ils aient peur de tomber dans tout ce qui s'oppose à la foi et ce qui s'oppose à l'unicité parmi les formes de mécréance et de polythéisme. Et la réalité de cette peur, de la peur du polythéisme, c'est que tu t'orientes de manière véridique vers Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant afin qu'il te préserve, te protège et t'écarte de toute forme de polythéisme. Mais est-ce qu'il suffit de faire cette invocation sans faire aucune cause? La réponse est non. Il faut qu'en parallèle, tu sois véridique et que tu fasses des recherches, que tu apprennes à connaître le polythéisme. Qu'est-ce que le shirk? Quelles sont les catégories de shirk? Quelles sont les causes qui mènent au shirk? Et quels sont les moyens de s'en préserver? Tout cela afin d'éviter de tomber dans le shirk. Tu apprends le mal afin de t'en préserver. Comme le disait Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. حذيفة رضي الله تعالى عنه. Il dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, les gens interrogeaient le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم au sujet du bien, et moi je l'interrogeais au sujet du mal. Pourquoi? Il dit رضي الله تعالى عنه, par peur de tomber dedans. Ce hadith est une preuve claire et évidente qu'il est indispensable pour le musulman d'apprendre ce qu'est le mal. Pourquoi? Afin de s'en préserver. Donc on va voir maintenant les paroles de l'auteur au sujet du polythéisme et de ses catégories. Il a dit, rahimahullah ta'ala, wa huwa thalathatu anwa', shirkun akbar, wa shirkun asghar, wa shirkun khafi. Il dit, rahimahullah, et il est de trois sortes, c'est-à-dire le shirk, le polythéisme. Shirkun akbar, c'est-à-dire le polythéisme majeur. Shirkun asghar, c'est le polythéisme mineur. Wa shirkun khafi, c'est le polythéisme imperceptible, c'est-à-dire qui est difficile à percevoir. On voit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a divisé ici le polythéisme en trois catégories. Et comme on l'a mentionné précédemment, au sujet des catégories de tawhid, et au sujet des conditions de la ilaha illallah, ceci est tiré de l'étude et de l'analyse des textes du Coran et de la Sunna authentique. Et certains savants ont divisé le polythéisme en seulement deux catégories, akbar ou asghar, majeur et mineur. Et ce, car ce qui est appelé à shirk al-khafi, le polythéisme imperceptible, en réalité, il y a parmi celui-ci certaines formes qui relèvent du polythéisme majeur et certaines formes qui relèvent du polythéisme mineur. Donc le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, il y a certaines formes parmi eux qui sont claires et évidentes et d'autres qui sont imperceptibles. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le polythéisme majeur, Allah ne le pardonne pas et il n'accepte avec lui aucune œuvre pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et certes, quiconque donne des associés à Allah s'est certes égaré d'un égarement lointain. Puis il a cité d'autres versets, comme on va le voir au long de l'explication. Donc ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a commencé à nous exposer la première catégorie de polythéisme, qui est le polythéisme majeur. Et le shirk, on a vu dans des cours précédents qu'on pouvait le définir comme étant l'invocation d'autre qu'Allah avec Allah, ou le fait d'adorer avec Allah autre qu'Allah. Et on a vu aussi une définition plus globale qui est Musawatu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. C'est-à-dire que c'est le fait de prendre autre qu'Allah comme égal à Allah parmi ce qui fait partie des particularités d'Allah. Donc, quiconque voue une chose qui fait partie des particularités d'Allah, des choses qui sont spécifiques et réservées à Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque voue une de ces choses à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui qu'il soit, alors il l'a certes pris comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, alors il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est rendu coupable de shirk akbar, de polythéisme majeur, celui dont l'auteur sera éternellement en enfer, wal'iyadhu billah. Et ce car le polythéisme majeur, c'est la plus grande des injustices et le plus grave des péchés. Et le shirk al-akbar, le polythéisme majeur, il a été appelé akbar car il y a une forme de polythéisme qui n'atteint pas son degré de gravité. Et c'est le shirk al-asrar, le polythéisme mineur, comme on va le voir par la suite, incha'Allah wa ta'ala. Également, il a été appelé shirk akbar, car c'est le plus grave et le plus grand des péchés par lequel on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas à celui qui meurt en ayant commis du shirk majeur sans s'être repenti. Et ce, en aucun cas. De la même manière, les œuvres de celui qui commet du polythéisme majeur, elles sont toutes vaines. Et les versets allant dans ce sens, ils sont très nombreux. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme vous le voyez, il a cité quelques-uns de ces versets. Il a commencé par citer le verset que l'on a lu, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et ce verset, il nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui a commis du shirk et qui meurt sans s'être repenti de ce polythéisme. Il a cité ensuite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ اُعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Et le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Certes, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. On a déjà expliqué ces versets dans des cours précédents, notamment lors du cours sur les annulatifs de l'islam, car l'auteur, rahimahullah ta'ala, les a mentionnés lors du premier annulatif. Et on a vu que ces versets, ils nous montrent la gravité du polythéisme, et que c'est le plus grave des péchés, et que son auteur sera éternellement en enfer, car le paradis lui a été interdit. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, c'est-à-dire les polythéistes, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et ce car les œuvres, elles ne peuvent en aucun cas être acceptées si leur auteur accomplit du polythéisme majeur. Même si la personne passe ses nuits à prier, ses journées à jeûner et à dépenser son argent en aumône, qu'elle se rend tous les ans au pèlerinage à la Mecque, qu'elle accomplit des umrah plusieurs fois dans l'année, qu'elle maintient ses liens de parenté, qu'elle est bienfaisante envers sa famille, envers ses parents, envers ses voisins et ainsi de suite, parmi les œuvres de bien, mais qu'elle commet en parallèle de cela du polythéisme majeur, comme le fait de faire un sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui invoquent les morts ou autres, et ainsi de suite parmi les différentes formes de polythéisme que l'on a déjà vu dans différents cours. Si la personne fait cela, l'ensemble de ses œuvres sont vaines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle réduit ses œuvres en poussière éparpillée. N'ont qu'une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il ne lui vouera pas un culte exclusif dans l'adoration. Ensuite, il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, confirmant ce que l'on vient de dire. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Certes, si tu donnes des associés, si tu commets du polythéisme, tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras du nombre des perdants. À qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans ce verset? Il s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit cette parole au meilleur des hommes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a également dit au sujet des prophètes et des messagers alayhi wa sallat wa sallam, comme on le voit dans l'autre verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient donné à Allah des associés, tout ce qu'ils ont œuvré aurait été vain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça en s'adressant au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres prophètes et les autres messagers alayhi wa sallat wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en aucun cas, n'allait donner d'associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de cela. Il l'a choisi pour être son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a donc préservé du polythéisme. Mais ceci est une leçon pour nous, afin qu'on se rende compte que si ceci est valable pour les meilleurs des hommes, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour porter leur message, il leur dit, si vous commettez du polythéisme, toutes vos œuvres seront vaines. Toutes vos œuvres seront réduites en poussière et n'auront aucune valeur. Alors que dire d'autre que les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Il n'y a pas de doute que ceci nous montre que quel que soit le rang de piété que peut atteindre la personne, si elle donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ses œuvres seront toutes vaines. Wallahu al-musta'an. Donc ceci nous montre, mes frères, le danger du polythéisme. Et ceci nous met également en garde contre le fait de commettre le polythéisme. L'ensemble des péchés, en dehors du shirk et de la mécréance, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne meurt en ayant commis un péché moindre que le polythéisme et la mécréance, et qu'elle ne s'est pas repentie de ce péché, alors elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il la pardonnera de par sa grâce, et si Allah veut, il la châtiera de par son équité à hauteur de ses péchés. Puis sa destination, ce sera le paradis s'il est monothéiste, car aucun monothéiste ne demeurera éternellement en enfer. Alors que le polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le pardonne en aucun cas à celui qui meurt sans s'être repenti de celui-ci. Et sa destination, ce sera le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc, après nous avoir montré la gravité du shirk akbar, du polythéisme majeur, l'auteur rahimahullah ta'ala nous informe que ce polythéisme, le polythéisme majeur, le shirk al-akbar, il se divise en quatre catégories. Et il a dit, rahimahullah, al-shirk al-akbar, arba'atu anwa'. Le polythéisme majeur est de quatre sortes. Et il va les mentionner. Il dit tout d'abord, al-na'u al-awwal, shirk al-da'wa. La première catégorie de polythéisme majeur, c'est le polythéisme dans al-da'wa. Ce qui est visé par al-da'wa ici, c'est al-du'a, l'invocation. Le polythéisme dans l'invocation. Et ce car l'invocation, mes frères, comme on l'a vu précédemment, c'est une adoration. C'est même une des formes les plus importantes d'adoration. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit dans un hadith authentique, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son noble livre, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna alladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Et ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc on voit qu'au début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne quoi? De l'invoquer. Et ensuite, il dit ceux qui refusent de m'adorer. Il a donc clairement nommé l'invocation adoration, et on a déjà mentionné cela dans le cours précédent. Donc, à partir du moment où tu sais que l'invocation, c'est une adoration, tu sais alors qu'il est strictement interdit de la vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de vouer cette adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela relève du polythéisme majeur. Ainsi, quiconque invoque un prophète, ou invoque un ange, ou invoque un saint, ou une personne pieuse, ou encore invoque une tombe,
une pierre, un arbre ou autre chose parmi les créatures qui sont invoquées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci est un polythéiste mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'a aucune preuve,
Il aura à en rendre compte à son Seigneur.
et certes, les mécréants ne réussissent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé dans ce verset ceux qui invoquent autre que lui, mécréants. Donc, toute adoration, que ce soit parmi les adorations apparentes ou cachées, il est strictement interdit de les vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elles doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Et quiconque voue une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors fait du polythéisme majeur, et c'est un polythéiste mécréant. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné parmi les preuves que l'invocation est une adoration. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Puis une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au sujet des polythéistes que lorsqu'ils étaient en mer sur leur bateau et qu'il y avait une tempête, qu'ils étaient pris par les vagues de tous bords et qu'ils ne voyaient plus aucune issue et pensaient qu'ils allaient périr, alors ils se tournaient vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquaient seul en dehors de tout associé. Ils vouaient l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Pourquoi? Car ils avaient la certitude que dans cette situation, seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait les sauver et que nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait les préserver et les protéger et les sauver de l'épreuve dans laquelle ils se trouvaient. Donc ils vouaient le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Ils l'invoquaient lui seul, en dehors de tout autre que lui, et ils délaissaient l'invocation de leur divinité qu'ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala en d'autres moments. Puis ensuite, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauvait des dangers de la mer et qu'il les ramenait à la terre, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retournaient dans le polythéisme et la mécréance. Ils ne faisaient pas preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils recommençaient à lui donner des associés en invoquant autre que lui. Ceci est donc la première catégorie de polythéisme majeur, le polythéisme dans l'invocation. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, an-naw'u thani, la deuxième catégorie, c'est-à-dire la deuxième catégorie de polythéisme majeur, shirkun niyya wal irada wal qasd. Le polythéisme dans la niyya, al-irada et al-qasd. Donc ces trois termes qui désignent l'intention, la volonté, ce qu'on recherche, et le qasd, l'objectif, ce sont des mots dont le sens est relativement proche. Ce sont des synonymes. Et ce qui est visé par cela, c'est que celui qui, par ses œuvres, il recherche ce bas monde, où il a l'intention de faire de l'ostentation, comme le font, par exemple, les hypocrites, dont la seule intention est de faire croire aux gens qui sont musulmans de par leurs œuvres, et ne visent en aucun cas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà. Alors ceux-là, ce sont des polythéistes d'un polythéisme majeur. Quant à celui qui recherche de par ses œuvres Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà, mais qui dans certaines de ses œuvres il est touché par une forme d'ostentation, par exemple, alors celui-ci, il ne rentre pas dans cette catégorie. Mais son œuvre, elle relève du polythéisme mineur, comme on va le voir par la suite, de façon détaillée, inshallah ta'ala. Et la preuve de cette forme de polythéisme, le polythéisme dans l'intention, c'est ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné comme verset, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Ceux qui veulent la vie présente et sa parure, c'est-à-dire ceux dont l'intention dans leurs œuvres, c'est quoi? La vie présente, ad-dunya, et la parure, les belles choses de cette dunya. Ceci est leur intention dans leurs œuvres seulement. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, nous les rétribuerons selon leurs actions sur terre, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, il va leur donner la subsistance et va leur donner ce dont ils ont eu l'intention d'obtenir de par leurs œuvres. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ sans que rien ne leur en soit diminué. C'est-à-dire qu'ils auront dans ce bas monde, sur terre, ce qu'ils recherchent et ne seront pas lésés. Toutefois, qu'est-ce qu'il dit après Allah subhanahu wa ta'ala? أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ ceux-là sont ceux qui n'auront rien dans l'au-delà, si ce n'est le feu de l'enfer. Et ils y seront éternellement. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ et ce qu'ils auront fait ici-bas, c'est-à-dire comme bonnes actions, sera un échec et sera vain ce qu'ils ont œuvré. Comme on l'a vu dans le verset précédent. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا nous avons considéré ce qu'ils ont accompli comme œuvre et nous l'avons réduit en poussière éparpillée. C'est-à-dire que celui qui, dans ses œuvres, il ne recherche que ce bas monde. Il ne recherche pas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala ni sa récompense. Mais il a des objectifs mondains seulement. Alors celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui permettre d'atteindre ses objectifs mondains. Mais dans l'au-delà, il n'aura que le feu de l'enfer. Et dans ce verset donc, qui est le verset de Surat Hud, on voit que toute personne qui œuvre pour ce bas monde et qui délaisse l'au-delà, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne ce qu'il recherche sans rien lui diminuer de cela. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé dans un autre verset, qui est un verset de Surat Al-Isra, que ce verset-là de Surat Hud, il n'est pas à comprendre de manière absolue pour toute personne. Mais il est restreint par une chose qui est quoi? Qui est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de ce bas monde ce qu'il veut et qu'il veut. En effet, il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Isra, « Man kana yuridu al-ajila, ajjalna lahu fiha, ma nasha liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam, yaslaha madmouman madhura. » Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé et repoussé. Donc ce verset, il restreint le sens absolu venu dans le verset précédent. Et c'est ainsi que l'on doit comprendre les textes du Coran et de la Sunna en les réunissant les uns les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas toute personne de façon absolue qui va œuvrer pour ce bas monde tout en délaissant l'au-delà qui obtiendra ce qu'il veut ici-bas. Mais si Allah veut, il lui permettra d'atteindre ce qu'il veut ici-bas. Et si Allah veut, il l'en privera aussi. Il sera privé des deux, de la récompense d'ici-bas et de la récompense de l'au-delà. Et on voit que cette forme de polythéisme, c'est une forme qui est très dangereuse. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit à ce sujet, quant au polythéisme, dans les intentions, il est la mer qui n'a pas de côte. C'est-à-dire une mer sans limite. Il dit, et très peu sont ceux qui s'en prémunissent. Donc celui qui recherche de par son œuvre autre que le visage d'Allah, et a une intention d'une chose autre que le fait de se rapprocher d'Allah et de rechercher la rétribution de la part d'Allah. Il a certes donné des associés à Allah dans son intention, selon le sens de la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala que l'on trouve dans son livre « Adda wa Dawa », la maladie et le remède. Et il dit ensuite rahimahullah ta'ala « Et la sincérité, l'ikhlas » c'est qu'il voue un culte exclusif à Allah dans ses paroles, dans ses actes, ses volontés et ses intentions. C'est ça l'ikhlas. C'est que tout soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, la troisième forme de polythéisme, c'est-à-dire de polythéisme majeur, c'est le polythéisme dans l'obéissance. Il dit, rahimahullah, An-na'u thalith shirku ta'a. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah ainsi que le Messie, fils de Mariam. Alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, il n'y a pas de Dieu à part lui, c'est-à-dire pas de Dieu en droit d'être adoré à part lui, gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Ensuite il dit, rahimahullah, وَتَفْسِرُهَا أَلَّذِي لَا إِشْكَالَ فِيهِ طَاعَةُ الْعُلَمَا وَالْعُبَّادِ فِي الْمَعْصِيَةِ. Il dit, et l'explication, le tafsir de ce verset, au sujet duquel il n'y a aucun problème, aucune ambiguïté. Le tafsir, il est très clair. Il vise l'obéissance aux savants et aux adorateurs dans quoi? Dans la désobéissance. C'est-à-dire dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, la du'a'uhum iyyahum. Ce qui est visé ici, ce n'est pas de les invoquer. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset que les rabbins et les moines ont été pris pour seigneur en dehors d'Allah. Cela ne veut pas dire qu'ils les ont invoqués en dehors d'Allah. Mais ils leur ont obéi dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous informe que ce tafsir, c'est le tafsir qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, rahimahullah, كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. Comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a expliqué à عدي بن حاتم. لما سأله فقال لسنا نعبدهم. Lorsque عدي, il a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم et il lui a dit, nous ne les adorions pas. C'est-à-dire, nous n'adorions pas les moines et les rabbins. فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a mentionné que leur adoration désigne le fait de leur obéir dans la désobéissance, dans le péché. Donc ceci est la troisième forme parmi les formes de polythéisme majeur. Le polythéisme dans l'obéissance. Shirk al-ta'a. Donc, quiconque obéit à une créature en rendant licite ce qu'Allah a rendu illicite. Ou en rendant illicite, interdit, ce qu'Allah a permis. Et qu'il a la ferme conviction de cela. C'est-à-dire qu'il croit que cela est permis alors qu'Allah l'a interdit, ou qu'il croit que cela est interdit alors qu'Allah l'a permis. Et qu'il sait que ceci s'oppose à ce qui est venu dans la législation. Alors il a certes pris cette créature comme seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a commis du polythéisme majeur. Et la preuve, c'est ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala il a mentionné. Il dit, ils ont pris, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, leurs rabbins, qui sont les savants des juifs, et leurs moines, qui sont les adorateurs des chrétiens, comme seigneurs en dehors d'Allah. C'est-à-dire, ils les ont pris comme associés à Allah. Comment? Ils les ont suivis dans le fait de légitimer ce qu'Allah a interdit et d'interdire ce qu'Allah a permis. Et le Messie, fils de Mariam, c'est-à-dire Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, il est innocent de leur adoration et de leur polythéisme, car ce n'est pas lui qui leur a ordonné cela. Il se désavouera d'eux au jour de la résurrection, comme il est venu dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il ne leur a été commandé que d'adorer un Dieu unique. C'est-à-dire, il ne leur a été commandé que de vouer un culte exclusif dans l'adoration et l'obéissance à un Dieu unique qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Point de Dieu en dehors de lui. C'est-à-dire, aucun Dieu n'est en droit d'être adoré en dehors de lui. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Quelle que soit la chose qui est associée à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de cela. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a montré ici le sens de ce verset dans lequel on voit cette forme de polythéisme qui est le polythéisme dans l'obéissance. Et il s'est servi comme preuve de l'explication de ce verset de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'il a mentionné. Et le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a mentionné une parole très bénéfique à ce sujet, dans laquelle il nous montre les différents cas de figure concernant cet interdit. Il dit, rahimahullah, donc selon le sens résumé de sa parole, « Et ceux-là qui ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs, lorsqu'ils leur ont obéi en légitimant ce qu'Allah a interdit et en interdisant ce qu'Allah a permis, ils sont de deux types. Le premier type, c'est ceux qui savent qu'ils ont altéré la religion d'Allah. C'est-à-dire que leurs rabbins et leurs moines ont altéré la religion d'Allah. Ils savent cela. Et ils les ont suivis dans cette altération. En croyant à la permission de ce qu'Allah a interdit ou à l'interdiction de ce qu'Allah a permis. Et ce, en suivant leur leader. Tout en sachant que ceux-ci s'opposaient à la religion des messagers, alayhim salat wa salam. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit ensuite, ceci est de la mécréance. Et Allah et son messager ont considéré cela comme du polythéisme. Il dit même, s'ils ne font pas la prière pour eux, c'est-à-dire ils ne prient pas pour leurs rabbins et leurs moines, et ils ne se prosternent pas pour leurs rabbins et leurs moines. Donc, celui qui suit autrui dans l'opposition à la religion, tout en sachant que ceci s'oppose à la religion, et il croit en ce que cette personne dit, en le mettant à la place de ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, Alors celui-ci est un polythéiste comme ceux-là, comme ceux qui ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. C'est-à-dire une personne qui suit un savant ou un gouverneur dans la légitimité d'une chose qu'Allah a interdite, ou l'interdiction d'une chose qu'Allah a permise. Il le suit en cela, en croyant en ce qu'il dit, et en le remplaçant, en le mettant à la place de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont légiféré, tout en ayant connaissance de cela. C'est-à-dire, il sait ce qu'Allah et son messager alayhi salatu wa salam ont légiféré. Mais malgré cela, il suit un savant ou un gouverneur dans cela. Celui-ci, il a fait du polythéisme dans l'obéissance, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens avec leurs rabbins et leurs moines. Il dit ensuite, Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, la deuxième catégorie, ou le deuxième type, c'est que la personne croit et ait la foi en l'interdiction de ce qu'Allah a interdit et la permission de ce qu'Allah a rendu licite. Toutefois, il va leur obéir, c'est-à-dire ou au gouverneur ou au savant, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait le musulman qui fait des péchés. Il sait que c'est un péché, mais il commet quand même ce péché. Il dit donc ceux-là, ils ont le même jugement et le même statut que celui des autres pécheurs. Donc ceci est le sens rapproché et résumé de la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala à ce sujet, qui nous permet de distinguer entre ces deux cas de figure. Donc une fois que cela est compris, que tu as bien compris que le fait de prendre une personne comme seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire du polythéisme dans l'obéissance, c'est le fait de le suivre dans la légitimité d'une chose qu'Allah a interdite, ou l'interdiction d'une chose qu'Allah a permise, tout en ayant connaissance de cela, mais en faisant prédominer ce qu'il a ordonné sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as compris cela, alors il sera simple pour toi de voir la fausseté de deux paroles qui sont malheureusement répandues à notre époque. La première parole, c'est la parole des Khawarij. Parmi les Khawarij contemporains, comme les frères musulmans, selon leurs différents courants, comme Al-Qutbiyya ou Al-Sururiyya et autres, parmi les confréries rattachées au groupe des frères musulmans qui sont des Khawarij contemporains. Ceux-là, lorsqu'ils voient nos savants de la Sunna appelés à l'obligation de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur musulman, tant qu'ils n'ordonnent pas de péché. Comme cela est venu très clairement dans les textes du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'ils disent cela? Ils disent, ces savants-là sont des adorateurs des gouverneurs. Ils adorent les gouverneurs. Pourquoi? Car ils rappellent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. L'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman, tant qu'il n'ordonne pas de désobéissance. Donc, on voit que ceci est une parole fausse et hors contexte, qui ne relève en aucun cas de ce que l'on vient de mentionner dans le polythéisme de l'obéissance. La deuxième parole fausse, c'est celle que l'on entend et qui est prononcée par certaines personnes au sujet des salafis, qui acceptent les jugements des savants de la critique et l'éloge sur les opposants à la vérité ou sur les gens qui sont dans l'erreur. Puis lorsqu'un salafi transmet la parole des savants, cette parole qu'il considère comme juste et en concordance avec la vérité et à ce à quoi appellent les textes du Coran et de la Sunna, alors on voit certaines personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Vous adorez un tel ou un tel parmi les savants. Subhanallah. Est-ce que ce savant, tout d'abord, il a rendu licite ce qu'Allah a interdit? Ou est-ce que ce savant, il a interdit ce qu'Allah a permis? Puis est-ce que nous l'avons suivi dans cela, dans la légitimité de ce qu'Allah a interdit, ou l'interdiction de ce qu'Allah a permis, afin que nous qualifie d'adorateurs de tel ou tel savant? Donc ceci, mes frères, cela nous démontre tout d'abord la gravité de cette parole, la fausseté de cette parole et l'ignorance des gens qui répètent bêtement cette parole. Wallahu al-musta'an. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous réformer et de ramener l'ensemble de nos frères à la vérité. Ensuite, il dit, rahimahullah, la quatrième sorte, parmi les catégories de polythéisme majeur, c'est shirk al-mahabba. Il dit, rahimahullah, an-na'u al-rabi' shirk al-mahabba. Le polythéisme dans l'amour. C'est-à-dire que la quatrième catégorie de polythéisme majeur, c'est le polythéisme dans l'amour. Et ce qui est visé par cela, c'est l'amour impliquant la servitude, la vénération, l'humilité, l'asservissement à la personne que l'on aime. Et cet amour-là, il est réservé Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Donc, si le serviteur voue cet amour à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors commis du polythéisme majeur, wal'iyadhu billah. Quant à l'amour naturel, comme l'amour des enfants, l'amour des épouses, l'amour de l'argent, l'amour des parents, et ainsi de suite parmi les formes d'amour relevant de la nature de l'homme. Tout ceci ne rentre pas dans le polythéisme. Ce sont des formes d'amour qui sont permises et qui peuvent même être recommandées dans certains cas. Tant que cet amour, il ne dépasse pas l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tant qu'il ne mène pas à la désobéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si l'amour naturel, il amène par exemple au délaissement d'une obligation. Par exemple, la personne aime l'argent. Cet amour pour cet argent, il va l'amener à délaisser des obligations, comme la prière en son temps, par exemple. Ou encore, ça va l'amener à commettre des interdits, comme le fait de se raser la barbe. Tellement il aime l'argent, alors il fait tout pour l'obtenir, et il fait des concessions pour obtenir, par exemple, un emploi. Il délaisse la prière en son temps, il se rase la barbe, et ainsi de suite, parmi les péchés qui sont commis par bon nombre de musulmans, Allah al-Musta'an. Donc cet amour-là, il devient un amour interdit. Il est à la base permis, mais étant donné qu'il mène la personne à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un amour interdit. Quant à l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est subordonnée à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est impliquée par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné dans un hadith authentique que personne ne peut avoir la foi sans aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre personne, son enfant, son père et l'ensemble des gens, comme cela est venu dans le hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Donc, ce qui est visé ici par le polythéisme, c'est l'amour qui relève de l'adoration. Et il fait même partie des formes les plus nobles d'adoration. Donc celui qui voue cet amour, impliquant la servitude, la vénération, l'avilissement, l'asservissement à la personne qu'on aime, celui qui le voue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant de l'asservissement à celui qu'il aime, alors celui-ci il a commis du polythéisme majeur, wal'iyadhu billah. Et il a mentionné la preuve de cela. Il a dit, rahimahullah, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui qu'ils aiment comme on aime Allah. C'est-à-dire que la cause de leur polythéisme, c'est quoi? C'est qu'ils ont aimé ces égaux de la même manière que l'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre Ad-Dawa Ad-Dawa, la maladie et le remède, que l'amour, il est de quatre catégories et qu'il est obligatoire de faire la différence entre celles-ci. Et il dit, rahimahullah, que ceux qui se sont égarés ne se sont égarés qu'à cause de quoi? Qu'à cause du fait qu'ils n'ont pas distingué entre ces catégories. Il dit, rahimahullah, la première catégorie, c'est l'amour d'Allah, le fait que tu aimes Allah. Il dit, et cet amour-là, il n'est pas suffisant pour que tu sois sauvé du châtiment d'Allah et que tu obtiennes sa récompense. Pourquoi? Il dit, car les polythéistes, parmi les adorateurs de la croix et les juifs et autres, ils aiment Allah. Ils ont de l'amour pour Allah. Mais cela ne suffit pas pour être sauvé du châtiment d'Allah. Il dit, la deuxième catégorie, c'est l'amour de ce qu'Allah aime. Mahabbatu ma yuhibbullah. Que tu aimes ce qu'Allah aime. Et il dit, rahimahullah, et c'est cet amour-là qui fait entrer en islam et te fait sortir de la mécréance. Et la personne la plus aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui mettra le plus en pratique cela, cet amour, et qui sera le plus fervent dans cet amour. C'est-à-dire qu'il aime tout ce qu'Allah aime. Il dit la troisième catégorie d'amour, c'est al-hubbu lillah wa fi. L'amour pour Allah et en Allah. Et ceci fait partie des choses nécessairement impliquées par la deuxième catégorie. Forcément, celui qui aime ce qu'Allah aime, il va l'aimer pourquoi? En Allah et pour Allah. Et il dit la quatrième catégorie, c'est al-mahabbatu ma'allah. L'amour avec Allah, le fait d'aimer avec Allah. Et il dit, et c'est cet amour-là qui relève du polythéisme. Donc toute personne qui aime une chose quelconque avec Allah et qu'il ne l'aime pas pour Allah, ni en Allah, ni pour rechercher la satisfaction d'Allah, alors il l'a certes pris comme un ego en dehors d'Allah, et ceci est l'amour qu'ont voué les polythéistes à leur divinité. Donc ainsi, on a vu les quatre catégories du polythéisme majeur qui font sortir leur auteur de la religion de l'islam. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, « Al-naw'u thani min anwa'i shirk, shirkun ashar, wa huwa al-riya. » Il dit la deuxième catégorie parmi les catégories de polythéisme, c'est le polythéisme mineur, al-shirk al-ashar. Il dit, et c'est l'ostentation. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il commence à nous exposer la deuxième catégorie de polythéisme, qui est le polythéisme mineur. Et celui-ci, il a été appelé polythéisme mineur, car il est moindre que le polythéisme majeur, et il se différencie de lui sur plusieurs points. Le premier point, c'est que le polythéisme majeur, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne qu'à celui qui s'en repent. Alors que le polythéisme mineur, selon un des avis des gens de science, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si la personne meurt sans s'en repentir, si Allah veut, il le pardonne. Et si Allah veut, il le châtie à hauteur de ce polythéisme, puis il entrera au paradis. Selon l'un des avis des gens de science, comme on l'a mentionné dans des cours précédents. La deuxième différence entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, c'est que l'auteur du polythéisme majeur, il sera éternellement en enfer. Alors que l'auteur du polythéisme mineur, s'il entre en enfer, il n'y demeurera pas éternellement. Mais sa demeure finale sera le paradis par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La troisième différence, c'est que le polythéisme majeur, comme on l'a vu, il annule l'ensemble des œuvres. Alors que le polythéisme mineur, il n'annule que l'œuvre dans laquelle il a été commis. Ou alors, ils vont diminuer sa récompense. La quatrième différence, c'est que l'auteur du polythéisme majeur, le paradis lui est interdit. Alors que l'auteur du polythéisme mineur, sa destination finale est le paradis, qu'il soit châtié ou non. La cinquième différence entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, c'est que l'auteur du polythéisme majeur, il sort de la religion de l'islam. C'est un mécréant. Alors que l'auteur du polythéisme mineur, c'est un musulman et il garde ses droits de musulman. Bien que le péché qu'il a commis, c'est un très grave péché, mais c'est un musulman. Et ainsi de suite, parmi les différences que les gens de science ont mentionnées. Et la définition du polythéisme mineur, c'est qu'il désigne tout ce qui a été nommé shirk, polythéisme, dans les textes du Coran ou de la Sunna, mais qui n'atteint pas le degré de polythéisme majeur. Et c'est le plus grave des péchés après le polythéisme majeur. Et certains parmi les gens de science, comme on l'a vu précédemment, ils considèrent même que celui qui meurt en ayant commis du polythéisme mineur, duquel il ne s'est pas repenti, alors il rentrera inévitablement en enfer. Il sera châtié à hauteur de ce polythéisme. Et ce, d'après le sens apparent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Donc certains parmi les gens de science, ils ont dit « Ce verset, il est général et entre dedans toute forme de polythéisme. » Toutefois, il ne demeurera pas éternellement en enfer, comme on l'a dit, mais sa destination finale sera le paradis, et telle est la croyance des gens de la sunna à ce sujet. Et on voit qu'ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a défini le polythéisme mineur comme étant l'ostentation. Et la preuve de cela, c'est ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ainsi que d'autres, quant au fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Akhwafu ma akhafu alaykum al-shirk al-ashar » La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Il lui a alors dit « Wa ma shirk al-ashar ya Rasulallah » Et qu'est-ce que le polythéisme mineur, ô messager d'Allah? Et il a dit « Huwa al-riya » C'est l'ostentation. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, Allah dira au jour de la résurrection, lorsqu'il rétribuera les gens pour leurs œuvres, allez donc voir ceux pour qui vous commettez de l'ostentation dans ce bas monde, et regardez si vous trouvez auprès d'eux une quelconque rétribution. On voit à travers ce hadith la gravité de ce péché, qui est le polythéisme mineur sous la forme d'ostentation. Donc ce hadith, on voit à travers celui-ci, très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le polythéisme mineur par l'ostentation. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, selon le sens rapproché de sa parole, Quant au polythéisme mineur, alors c'est comme l'ostentation minime. Ou alors le fait de jurer par autre qu'Allah. Ou alors qu'un homme dise à un autre « Masha Allah wa shi't ». C'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. « Wa hada min Allah wa mink ». Ceci provient d'Allah et de toi. Ou encore « Wa mali illa Allah wa ant ». Je n'ai personne d'autre qu'Allah et toi. Ou encore « Ana mutawakkilun ala Allah wa alayk ». Je place ma confiance en Allah et en toi. Ou encore « Wa laula Allah wa anta lam yakun kada wa kada ». Si ce n'était Allah et toi, il ne se serait pas passé ceci et cela. Donc tout ceci, ce sont des exemples que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné parmi les exemples de polythéisme mineur. Puis il dit « Mais il est possible que ceci relève du polythéisme majeur en fonction de celui qui prononce cette parole et de son intention, c'est-à-dire de ce qu'il vise par cette parole. » Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné comme preuve à ce sujet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque espère la rencontre de son Seigneur, alors qu'il accomplisse des œuvres pieuses et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. Donc lorsqu'il dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il accomplisse des œuvres pieuses. L'œuvre pieuse, quelle est-elle? C'est celle qui est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire celle dans laquelle il n'y a pas d'ostentation. Et celle qui est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce verset pour nous démontrer l'interdiction du polythéisme mineur qu'il a défini comme étant l'ostentation. Mais en réalité ce verset il englobe l'ensemble des formes de polythéisme. Qu'il soit majeur ou mineur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite « وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne commette ni polythéisme majeur, ni polythéisme mineur. Toutefois, les savants du tafsir ont expliqué ce verset en mentionnant le fait qu'il désigne ici l'ostentation. Comme l'a fait l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, puis elle a mentionné les hadiths comme celui que l'on a cité dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le polythéisme mineur ostentation. Et l'imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté dans son recueil de hadith authentique, d'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse lui et son polythéisme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte parmi les œuvres que celles qui lui sont vouées exclusivement. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe de toute forme d'associé. Donc ici, on a simplement mentionné que ar-riya, l'ostentation, c'est une forme de polythéisme qui relève du polythéisme mineur si il reste minime, c'est-à-dire ce que s'il a lieu dans certaines des œuvres de la personne. Contrairement aux hypocrites dont l'ensemble des œuvres sont faites du début à la fin par ostentation. C'est-à-dire que ils feintent l'islam, ils font semblant d'être musulmans, toutes leurs œuvres sont faites par ostentation. Alors que le croyant, l'ostentation, elle peut le toucher dans certaines de ses œuvres. Et la validité ou l'annulation de l'œuvre, elle dépend des situations et on verra peut-être cela, inshallah ta'ala, dans d'autres cours. Ensuite, il dit, rahimahullah, An-naw'u thalith min anwa' al-shirk, shirkun khafi. La troisième catégorie parmi les catégories de polythéisme, c'est le shirk rafi, le polythéisme imperceptible. Donc comme on a vu, ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a divisé le polythéisme en trois catégories. Mais ce qui est plus juste en réalité, c'est de le diviser en deux catégories seulement, majeur et mineur, et de dire que parmi le polythéisme majeur, il y a certaines formes qui sont claires et évidentes, et d'autres formes qui sont imperceptibles, et parmi le polythéisme mineur également. Donc il dit ici, rahimahullah, que ceci est la troisième catégorie de polythéisme, et il a mentionné comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Al-shirku fi hadhi al-umma akhfa min dabib al-namla al-sawda ala safatin sawda fi dhulmati al-layl. » Le polythéisme dans cette communauté est encore plus imperceptible que les pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit obscure, dans une nuit sombre. Puis il a dit ensuite, rahimahullah, « Wa kaffaratuhu Et son expiation, c'est-à-dire l'expiation de ce polythéisme qui est imperceptible. C'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer une chose alors que je sais, et j'implore ton pardon pour le péché que je ne sais pas. C'est-à-dire le péché que je n'ai pas perçu, dont l'auteur lui-même ne s'est pas rendu compte. Donc ce polythéisme, il a été nommé shirkun khafi, polythéisme imperceptible, car la personne qui le commet, elle-même, elle peut avoir du mal à le percevoir. Il se peut qu'elle ne s'en rende même pas compte, sans parler d'autre que lui. Ou alors, ils ont dit qu'il a été appelé ainsi polythéisme imperceptible, car son auteur, il le dissimule, afin que les gens ne le perçoivent pas. Donc ce polythéisme, il se peut que personne ne s'en rende compte et que seul Allah subhanahu wa ta'ala en ait connaissance, car rien ne lui est caché subhanahu wa ta'ala. Et à partir du moment où tu sais que le shirk peut atteindre ce degré d'imperceptibilité et que peu de gens en sont à l'abri, alors tu sais l'importance de cette invocation que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné afin d'expier cette forme de shirk. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer une chose alors que je sais, et j'implore ton pardon pour le péché que je ne sais pas. On voit l'importance de cette invocation. Et on voit également que le musulman, qui est sincère envers lui-même, et qui craint réellement le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit donner de l'importance à l'étude du tawhid, et à l'étude de ce qui s'oppose au tawhid, parmi les différentes formes de polythéisme qui peuvent annuler le tawhid ou en diminuer la récompense. Et ce qui est visé par l'étude du tawhid, mes frères, ce n'est pas une étude globale comme le pensent beaucoup de gens. Parmi ceux qui essayent de décourager les musulmans de l'apprentissage de cette science, qui est une des plus nobles des sciences, ils les trompent en leur disant « Vous êtes musulmans, pourquoi apprenez-vous le tawhid ?» Ce sont les non-musulmans qui ont besoin d'apprendre le tawhid. Nous, alhamdulillah, nous sommes monothéistes. Nous n'adorons pas de prophètes, nous n'adorons pas de pierres, nous n'adorons pas d'arbres. Nous n'avons pas besoin d'apprendre ces choses. Nous apprenons d'autres sciences qui ne sont plus profitables. Wallah al-musta'an. Tout ceci, ce sont des paroles d'égarement qui montrent l'ignorance de celui qui prononce cette parole. Car le musulman, il a besoin d'apprendre le tawhid de manière globale, mais de manière détaillée également. De connaître le tawhid et ses différentes catégories, et plus particulièrement, l'unicité dans l'adoration, comme on l'a vu dans le cours précédent. Également le musulman, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et de se prémunir de tout ce qui provoque la colère d'Allah, il se doit d'apprendre ce qu'est le polythéisme. Quelles sont les catégories de polythéisme afin de s'en préserver et qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et qu'il connaisse la réalité de sa religion. Et plus la personne augmentera ses connaissances en termes de tawhid et en termes de polythéisme, plus sa foi va augmenter et plus il aura la certitude quant à sa religion. Et vous pouvez revenir pour cela à ce que l'on a mentionné lors du cours précédent lorsqu'on parlait de la deuxième catégorie de tawhid, l'unicité dans l'adoration, et qu'on a vu le danger du shirk et l'importance de l'apprentissage du tawhid. Et c'est pour cela que nos savants, rahimahumullah ta'ala, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah préserve les vivants parmi eux, ils donnent une grande importance à l'enseignement des livres de tawhid, comme le livre de l'unicité, al-usul al-thalatha, al-qawa'id al-arba, et autres parmi les épîtres traitant de cette science qui est une grande importance. Pourquoi? Car si on maîtrise cette base, mes frères, qui est le fondement de notre religion, si notre base, elle est ferme et solide, sera simple pour nous, après, de bâtir le reste, incha'Allah ta'ala, si l'on maîtrise la base de notre religion. Et méditez, pour terminer, une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui a dit, donc toujours selon le sens rapproché de sa parole, il dit: la majorité des gens, lorsqu'ils rentrent en islam, après avoir été mécréants, ou qu'ils naissent sur la religion de l'islam, puis se conforment à ses législations, c'est-à-dire aux législations de l'islam, et qu'ils font partie des adeptes de l'obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont alors musulmans, et ils ont une foi globale. Toutefois, l'entrée de la réalité de la foi dans leur cœur se fait petit à petit, si Allah leur accorde cela. Sinon, beaucoup de gens n'atteignent pas la certitude et n'atteignent pas la lutte, c'est-à-dire la lutte sur le sentier d'Allah. Il dit, si on les fait douter, ils douteront. Si on leur ordonne la lutte sur le sentier d'Allah, ils ne lutteront pas. Pourquoi? Car ils n'ont pas atteint la certitude qui leur permet de repousser le doute. Et ils n'ont pas un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam assez fort pour le faire prédominer l'amour de la famille et des biens. Il dit donc cela, cette catégorie de personnes, s'ils sont à l'abri des épreuves et qu'ils meurent, ils rentreront au paradis. Mais s'ils sont mis à l'épreuve par des gens qui leur suggèrent des ambiguïtés, qui les mettent dans le doute, alors, si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur fait pas grâce en dissipant ce doute, ils seront alors parmi ceux qui seront touchés par une forme d'hypocrisie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc voyez mes frères, à travers cette parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, l'importance pour le musulman d'apprendre sa religion, afin que la réalité de la foi elle pénètre son cœur, que sa foi se raffermisse et qu'il lève tout doute. Et le musulman, il doit prêter une grande attention à cela et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la clairvoyance dans sa religion, tout en faisant des efforts pour apprendre sa religion et la mettre en pratique. Car en effet, mes frères, la plus grande calamité pour la personne, c'est d'être touché par la faiblesse dans sa religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. On a donc terminé pour ce cours et ce chapitre traitant des catégories de polythéisme. On verra dans le cours de la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, les différentes catégories de mécréance. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran.